Le progrès pour une entreprise, c'est se renouveler. Être capable de sortir de sa zone de confort pour répondre à de nouveaux défis. Comme 1,1 million de travailleurs en France, ADA est reconnue handicapée. Être en dehors de sa zone de confort, c'est son quotidien. Le progrès, c'est elle.
C'est moi.
Et aussi Martin.
C'est moi.
François-Yves.
C'est moi.
Yazid, Sarah, Alice.
C'est nous.
Avec l'aide de la GFIP, faisons progresser les entreprises grâce à l'emploi des personnes handicapées. Du 20 au 26 novembre, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Rejoignez les milliers d'entreprises engagées sur activateurdeprogrès.fr.
Réplique, Romain Gary, encore et toujours, avec Agatha Tuschinska et Paul Audy. J'étais jeune et que j'étudiais la littérature, personne autour de moi, ni mes maîtres ni mes pères, ne s'intéressait à Romain Gary. On le connaissait bien sûr, mais on n'en attendait rien et on le regardait de haut. C'était un has-been. Il n'avait pas la carte. Il n'appartenait pas à ce qu'on croyait être la modernité. Les choses semblent avoir changé. La postérité lui fait meilleur accueil que ses contemporains. Il n'est plus, comme il a pu l'être, boudé par le public éclairé. Le philosophe Paul Audy a contribué naguère à cette réhabilitation. Et la romancière et essayiste polonaise Agatha Tuschinska vient de lui consacrer une biographie très personnelle, Le Jongleur. Je voudrais savoir, pour commencer, d'où vient votre intérêt, votre curiosité, votre prédilection à l'un et à l'autre pour l'auteur de La Promesse de l'Aube. Qu'est-ce qui vous a attiré vers Romain Gary et vous a conduit à passer beaucoup de temps en sa compagnie, Agatha Tuschinska?
Pour moi, c'était assez évident qui est Romain Gary. Parce que La Promesse de l'Aube trônait sur la table de nuit de ma mère. Ma mère, elle lisait ses livres plusieurs fois et beaucoup pleurait. Je comprenais pas très bien pourquoi, mais finalement j'ai compris. Quand elle m'a dit, quand j'avais 18 ans, qu'elle est juive, elle-même, qu'elle était une petite fille de ghetto de Varsovie, et que moi aussi je suis juive. Elle ouvert ses secrets tout à coup et je savais pas très bien quoi faire avec. Et puis j'écris beaucoup de livres, entre autres l'histoire familiale de la peur, qui est le livre sur mon identité assez complexe, polono-juive. Et après, j'ai beaucoup pensé à ça, à l'identité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et voilà, Romain Gary a apparu, réapparu encore une fois. Et je me suis dit, il faut que je lui parle. Il faut qu'on dialogue sur ces sujets-là. Et puis aussi, j'ai découvert plusieurs documents aux archives à Vilnius.
Où il est né,
en 1914. Il y a les archives là-bas, les archives en polonais en plus. Alors je me suis dit, il faut le sortir de là-bas et il faut en parler, il faut créer une nouvelle narration sur Romain Gary. Et je me suis dit, vous, ici en France, vous avez beaucoup de livres sur lui, c'est votre écrivain. Mais ceci, les miens, par sa judaïté, par Vilnius, qui était polonais à l'époque, et puis par Varsovie, où il passait 3 ans comme étudiant de l'école. D'ailleurs, il parlait assez bien le polonais.
Oui. À votre tour, Paul Audy.
Eh bien, moi, comme vous, Alain Finkielkraut, j'ai lu très tardivement Romain Gary. C'est un pur hasard qui m'a conduit à ouvrir un jour Clair de femme. C'est le premier livre que j'ai lu de Romain Gary. Et j'en ai été tellement saisi et aussi bouleversé que, comme je fais d'habitude, lorsque j'aime un auteur, je lis tout. Et alors, je me suis lancé dans cette aventure qui a fait que, au fond, comme Romain Gary disait lui-même du général de Gaulle qu'il était l'homme de sa vie, je me suis aperçu que Romain Gary était l'homme de ma vie aussi. Alors, je me suis retrouvé en lui, et je dois vous dire qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire avec Romain Gary, de mon point de vue, c'est que c'est un auteur qui ne s'est jamais trompé. C'est quand même assez extraordinaire, au XXe siècle, quand on fait la liste de tous les grands auteurs, il y a toujours quelque chose qui vous fait dire « Ah, là, il n'a pas vu. Il n'a pas vu, il n'a pas su dire. Il n'a pas su agir. » Eh bien, ce n'est pas le cas de Romain Gary. Je le trouve toujours juste dans ses jugements. Je le trouve audacieux dans son écriture. Je le trouve particulièrement intelligent. Alors, vous voyez, Romain Gary, c'est deux choses souvent. C'est soit un auteur très attachant, et beaucoup de lecteurs lisent Romain Gary parce qu'il est attachant, et lui-même disait « je m'attache facilement », et en fait il s'est attaché beaucoup de lecteurs, mais il est aussi intelligent. Et c'est par la porte de ce qu'il disait d'intelligent que j'ai essayé de l'aborder au tout début.
Alors, on peut dire aussi que Albert Camus ne s'est jamais trompé, ni non plus Thomas Mann. Il y a quand même d'autres.
Il en fait partie, justement.
Il en fait partie, voilà.
Ouais, c'est ça, il en fait partie.
Ils ne sont pas très nombreux, non, vous avez raison. Mais Agatha Tuschinska, vous avez découvert Romain Gary au moment même où on vous annonçait, où votre mère vous avouait en quelque sorte qu'elle était juive et donc que vous l'étiez aussi. Et dans les livres que vous avez consacrés à Romain Gary, la question de la judéité est très présente, Paul le dit. Donc arrêtons-nous là-dessus. J'ai sous les yeux, par exemple, « La nuit sera calme », un livre d'entretien, enfin, il a écrit des questions, semble-t-il, aussi, avec François Bondy. Et Romain Gary dit « Je suis catholique non-croyant ». Première, donc, voilà. J'ai toujours un grand faible pour Jésus, parce que Jésus, justement, c'est la faiblesse. Mais un peu plus loin, il dit aussi, François Bondy, ou le soi-disant François Bondy, lui dit, mais tu es demi-juif, tu peux choisir. Demi-juif, je ne sais pas ce que ça veut dire. Demi-juif, c'est demi-parapluie. Qu'est-ce que pour toi être juif? C'est une façon de me faire chier. Alors, que fait-on de tout ça? Et aussi, quelle est la place de cette question dans son œuvre, Agatha Tuschinska?
C'est très compliqué, Gary. Pour moi, c'est un jongleur.
Oui, alors, c'est le titre de votre livre.
C'est le titre de mon livre. Et je vois qu'il jongle avec le fil de son destin, avec le masque. Il se cache toujours. Alors, pour moi, il était juif parce que sa mère était juive et son père, Leiba Katzef, était juif. Il existait. Gary n'a pas beaucoup parlé de lui. Il disait qu'il aimerait mieux être un fils d'un acteur russe, Ivan Mozjouhin. C'était pas vrai. C'était encore une autre histoire qu'il a raconté pour s'amuser ou pour jongler avec la public. Mais pourquoi il a jonglé? Pourquoi il racontait toutes ces histoires incroyables? Est-ce que c'était pas une cachette? Est-ce qu'il le faisait pas pour se cacher au monde? Sa judaïté pour moi était évidente, mais il n'en a pas parlé. Il voulait pas en parler du tout. Quand j'ai lu le récit de sa femme Leslie Blanche, elle a raconté cette histoire que Gary était furieux à sa mère, qu'il a mis juif sous les papiers quand ils sont venus en France. Et il disait, mais pourquoi elle a fait ça? Comment on va vivre avec ça? Je sais que pour vous, Paul, c'est pas très bien de s'identifier juste par un mot. Vous dites, c'est l'étiquette être juif. Alors, Gary était français, il était juif, il était, comme il disait, un peu polonais. Et il était très attaché à la Pologne, et puis il parlait polonais. Il connaissait très bien la littérature polonaise aussi, ben, parce qu'il a passé quelques années à l'école. Alors, il était tout ça, il était multiculaire, et il a jonglé avec ça pour, ben, pour quoi faire ?
Alors, répondez, Paulody.
Sans aucun doute, les attributs identificatoires de Romain Gary sont extrêmement nombreux. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, il a jonglé avec. Avec cette métaphore de la jonglerie qu'il a souvent développée dans son œuvre, souvent en disant que, au fond, ce qui était important, c'est la balle, c'est la dernière balle, celle qu'on n'arrive pas à saisir. On peut jongler, mettons, avec 6 balles, mais il faut en avoir 7. Parce que justement, c'est lorsque la balle retombe et qu'on n'arrive pas à la saisir, qu'on est finalement le plus soi-même. Alors, il manquait sans doute un attribut supplémentaire pour que l'identité soit complète. Et ça fait en tout cas que la question de la judéité, comme vous l'avez dit, est extrêmement compliquée. Elle est compliquée à la fois en raison de la psychologie propre de Romain Gary, mais aussi des circonstances dans lesquelles il a vécu sa vie. Arriver en France à 14 ans et ne pas être tout de suite naturalisé, il ne l'a été que 6 ans plus tard. Arriver en France dans un climat qui est celui que nous connaissons de l'entre-deux-guerres, ça marque un homme, en tout cas ça marque un adolescent. Et à partir de là, la question de la naturalisation ou de la manière dont lui-même a vécu son identité française est extrêmement liée à la manière dont il a voulu affirmer ou ne pas affirmer sa judéité. On ne peut pas parler de la judéité de manière abstraite, on ne peut en parler que dans le contexte qui était le sien, dans la France d'alors, et la manière dont il s'est construit, non seulement jonglant, mais aussi en slalomant entre les écueils, parce qu'il en a connu de très nombreux. Et quand il dit à la fin de sa vie, quand il répond à la question « qu'est-ce que c'est pour toi être juif ?»« C'est une manière de me faire chier », ça veut bien dire que ça n'a pas été rose tous les jours. Ça a même été extrêmement difficile, et la biographie d'Agatha le montre, et d'autres biographies aussi, jusqu'à ce qu'il connaissent l'expérience absolument unique de la France libre, pour lui, être français restait problématique, parce que lui-même était problématique aux yeux des Français.
Oui, mais d'un autre côté, la judéité, l'histoire juive, la tragédie juive est très présente dans son œuvre. La danse de Jean Giscone, quand même un...
Et bien avant.
Bien avant, vous le dites, mais c'est un D-book, c'est un esprit, donc qui habite un ancien nazi. Et puis, bien avant et à la fin, parce que Paul dit dans votre livre, je me suis toujours été un autre. Vous citez ce très beau passage des cerfs-volants et ce que dit le narrateur du livre, du Chambon sur Lignon. Le Chambon sur Lignon était ce village qui, sous l'égide du pasteur André Trocmé et sa femme Magda, et avec l'aide de toute la population, avait sauvé de la déportation plusieurs centaines d'enfants juifs. Et le narrateur ajoute ceci, « Nous avons toujours été des prodiges de la mémoire, nous les fleuris, et je récite leurs noms souvent, sans en oublier un seul, puisqu'on dit que le cœur a besoin d'exercice. Et il me semble que cette question aussi est à l'arrière-fond des Racines du ciel. Morel, qui veut sauver les éléphants de l'extermination, était prisonnier de concentration, il n'était pas juif lui-même, mais l'extermination des éléphants est en résonance avec ce qui est arrivé aux juifs. Donc, on ne peut pas dire que Romain Gary, dans son œuvre, se soit caché Agatha Tuschinska.
J'en parle dans mon livre parce que j'aimerais bien que lui, Romain Gary, en parle plus. J'essaie de lui expliquer qu'est-ce qui se passait avec les Juifs en Pologne, à Vilnius et à Varsovie pendant la guerre, dans les ghettos de Varsovie. comment ça se passait. Je me demande si c'est possible qu'il ne savait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et pour ça, dans mon livre, il y a plusieurs passages. J'essaye de rendre la mémoire des Juifs de l'Europe de l'Est à son œuvre et à sa vie.
Oui, mais elle obsédait son œuvre quand même.
Vous croyez
Dans les cerfs-volants, c'est clair.
Je pense que pas assez.
Vous dites une chose absolument extraordinaire sur le ghetto de Vilno. Vous dites que la bibliothèque du ghetto ouvrit à l'automne 1941. On y traitait les livres comme des amis. Le 1er octobre, 3000 personnes du ghetto furent emmenées vers la mort. Le lendemain, on empruntait 390 livres. La bibliothèque était ouverte 7 heures par jour, 6 voire 7 jours sur 7.
Oui. Donc,
cette continuité.
C'était important de lire,
comme à Theresienstadt d'ailleurs. Oui.
Mais aussi, j'aimerais bien présenter pour le lecteur français aussi Vilnius et Varsovie de la guerre et les Juifs dans les ghettos et qu'est-ce qui se passait avec eux, parce que en lisant Romain Gary, on ne peut pas le savoir. Hein. Même en écoutant Romain Gary, il n'en a pas parlé. Alors pour ça, j'ai fait tout ce voyage à Vilnius aujourd'hui, où je creuse, et j'essaye de voir qu'est-ce qu'il y avait là, des dons dans cette ville. Et aussi, Gary, ce qui était incroyable pour moi, n'est jamais revenu à Vilno. Il n'était jamais allé là-bas. Et je me demande pourquoi. Il visitait Varsovie plusieurs fois, trois fois. Pour la première fois, pour la promesse de l'aube en Polonais.
On dit qu'il s'est évanoui devant le monument au bord du ghetto.
Exactement. Le monument de Rapaport dans les terrains d'anciens ghettos. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas.
Alors d'abord,
Polody.
Vous dites, est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que vous mettez en doute ce qu'il dit de ce qui lui est arrivé? Au nom de quoi?
Parce que l'histoire a plusieurs variations.
Je crois qu'il a été commotionné, il y a eu un choc réel. Qu'il tombe dans les pommes ou qu'il ne tombe pas dans les pommes.
C'est presque secondaire.
C'est une image. c'est une image pour simplement dire la nature du choc. C'est ça qui est important, c'est qu'effectivement, il a connu ce choc quand il est retourné à Varsovie, et ça a été décisif pour lui, pour la danse de Genghis Khan. Il n'aurait jamais écrit ce livre absolument époustouflant s'il n'y avait pas eu cette perte de connaissance. Je dirais que sa perte de connaissance était une perte d'ignorance, si vous voulez, puisqu'il a acquis une sorte de connaissance à ce moment-là, qu'il a immédiatement transcrite dans un roman. Mais tous ces romans, finalement, figurent en creux la tragédie. Il n'en a pas un seul. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il écrit Tulipe. Bon, quand on écrit Tulipe, on peut faire une lecture juive de ce livre-là. Pourtant, c'est son deuxième livre. Le premier était sur la Pologne, justement.
Éducation européenne.
Donc, la manière dont il s'est rattaché à sa propre histoire et à la grande histoire, cette façon mêlée, si vous voulez, on la retrouve dans tous ses livres. Alors, effectivement, il a tardé à faire des confidences personnelles. Ça, c'est très vrai, vous avez raison. Il a tardé à le faire, et parce qu'il avait une certaine réticence à le faire, il l'a fait en creux dans de nombreux livres. Quand on lit, par exemple, un livre qui n'a pas été réédité, qui s'appelle « Les couleurs du jour », c'est un cri à la première personne. Et c'est un cri qui essaye finalement de raccorder une identité personnelle qui est particulière, à savoir effectivement Romain Gary juif, à l'identité française. Et là, on entre dans la question des deux universalismes. Les deux universalismes, Romain Gary, pendant très longtemps, enfin, c'est mon hypothèse, a pensé que l'universalité juive était en quelque sorte intégrée ou chapeautée par l'universalité française. Il a pensé que là, il y avait quelque chose qui se fondait l'un dans l'autre. Et c'est progressivement qu'il s'est rendu compte que ce rêve, finalement, qui était un rêve typique de celui qui avait eu le sentiment d'avoir été sauvé par la France, ce rêve, en fait, avait vécu. Et la manière d'assumer cette rupture entre l'universalité juive qu'il portait en lui, parce qu'il n'arrêtait pas de lire des auteurs juifs, et qu'il était extrêmement concerné aussi par la sagesse juive, cette rupture s'est faite dans les années 60. Et je pense qu'il y a un moment de bascule, c'est la phrase du général de Gaulle.
Ah oui, le peuple d'élite sur de lui-même est dominateur.
Oui.
Qui a aussi conduit Raymond Aron à écrire un
exactement.
Livre.
Exactement.
Parce qu'il a été lui-même très touché.
Exactement.
Et même blessé par cette phrase. Or, Raymond Aron était un juif très assimilé.
Exactement.
Oui,
et donc, cette phrase signe, si vous voulez, la fin de l'israélisme français et le retour du non-juif. Et ça, c'est très, très, très important. Et Gary a longuement médité la façon de le faire. Dans les années, au début des années 70, c'est-à-dire 2 ans et demi plus tard, il écrit une lettre aux Juifs de France qu'il publie dans le journal Le Monde. Et ça va l'amener progressivement à Émile Ajar.
Ah oui.
Et Émile Ajar est une manière de prendre acte de la rupture entre les deux universalités, qu'elles ne sont plus homothétiques.
Oui, parce qu'Émile Ajar, en effet, la question juive est très présente. Enfin, les personnages sont juifs. Il a créé Émile Ajar, vous le montrez très bien, Agatha Tuschinska, parce qu'il ne peut plus supporter d'être catalogué, mis dans un tiroir. Les critiques savaient à quoi s'en tenir, il ne lisait à peine ses livres, il en a eu assez. Et donc, effectivement, il a abordé de front cette question juive, mais aussi, il a connu une véritable métamorphose. Parce que on dit, les critiques auraient pu s'apercevoir que c'était Romain Gary, je n'en suis pas si sûr. Son inspiration s'est renouvelée, son style n'est plus tout à fait le même. Moi, je trouve Émile Ajar éblouissant. Donc, tout d'un coup, il n'était plus le vieillissant Romain Gary, mais il était lui-même un jeune auteur pétulant, plein d'imagination, très drôle, avec gros câlins, la vie devant soi. Son humour même, je trouve, changeait. Ça, c'est quand même une métamorphose spectaculaire dans la littérature. Certes, on dit il a obtenu 2 fois le Goncourt, alors qu'évidemment, dans les statuts, ce n'est pas possible. Mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire, un autre écrivain est né avec cette tentative de Romain Gary de semer ses critiques, Agatha Tuschinska.
Oui, c'est très intéressant parce qu'Émile Ajar n'avait pas le poids de son passé. Il n'était pas le fils d'une mère juive de Vilnius. Il n'était pas cet écrivain avec tout son passé. Ça, c'est très important. C'était quelqu'un d'autre. Et le livre qu'il a écrit, La vie devant soi, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Ben, j'adore ces livres. A beaucoup d'humour juif. Beaucoup, beaucoup. Et l'humour juif qui a appris aussi, comme il disait, en Pologne, dans les cabarets, dans les années 30. Aussi en lisant Antoni Słonimski, un grand poète polonais juif. Il y a beaucoup de cet humour dans l'œuvre d'Émile Ajar. Pour moi, c'est incroyable qu'il a fait ça, qu'il a réussi de se totalement changer et montrer aux critiques français qui sont très sérieux et très... ils savent tout, on dirait. Et ils ne se sont pas rendus compte. Pour moi, c'est assez évident que La promesse de l'aube et La vie devant soi ont été écrits par le même auteur. Ça, il y a l'humour, il y a le tandem des maman-fils, ici, Madame Rosa et Petit Momo.
C'est
il
la
a...
réécriture du livre.
Absolument, absolument.
Ça.
Absolument.
Ouais, oui.
Pour moi, alors, ça se voit.
Alors, un exemple de cet humour que vous citez, Agatha Tuschinska. Madame Rosa gardait sous son lit un portrait de Monsieur Hitler. Quand elle était malheureuse et ne savait plus à quel saint se vouer, elle sortait le portrait, le regardait, et elle se sentait tout de suite mieux. Ça faisait quand même un gros souci de moins.
Mais c'est génial, c'est absolument génial. Oui. Et j'avais une tante comme Madame Rosa, c'était la sœur de mon grand-père juif. Alors j'ai découvert cet humour juif. Et quand j'étais petite, je ne savais pas que c'est juif-juif. Mais après, en lisant Gary, hein, c'est confrontant avec tout ce qu'il raconte. Voilà, c'est ça. Et je me demandais aussi, parce que mon livre, ce n'est pas le livre sur Romain Gary, ou pas seulement sur Romain Gary. C'est moi et Romain Gary, et ce sont les autres qui cherchent leur identité. Et qu'est-ce que ça veut dire, identité ? Est-ce que c'est l'identité juive ? Je ne sais pas, parce que moi, je suis polonaise et je suis juive. Pourquoi suis-je polonaise ? Parce que c'est la langue polonaise qui me forme. J'écris en polonais, mais je suis juive parce que je suis la fille de ma mère qui est juive et ma mère qui a survécu la Shoah. Alors, je suis juive par la Shoah. Et qui était Romain Gary alors ? Et qui sont les autres qui ont cette double identité ? Ça va comment ?
Alors, Romain Gary définissait l'humour comme cette façon de désamorcer le réel au moment même où il va nous tomber dessus. Vous citez cette phrase, je crois, Paul Odier. Et vous dites, la promesse de l'aube contient déjà, enfin, il y a une poursuite de la promesse de l'aube dans la vie devant soi. Alors parlons un peu de la promesse de l'aube et de cette mère à laquelle il rend hommage et qui, moi, me fait peur. Tu seras D'Annunzio, tu seras Victor Hugo, prix Nobel.
Ambassadeur de France.
Ambassadeur de France, et donc il lui fallait tout de suite écrire le chef-d'œuvre immortel du jeune Tolstoï qui rendrait, qui récompenserait sa mère. Je me demande d'abord comment il a pu devenir écrivain avec une injonction pareille. Parce que là, tout d'un coup, on se dit, c'est pas possible. Puis l'écriture, ça doit obéir à une autre nécessité que celle-là. Et puis je me pose une seconde question. Parce qu'il dit, Romain Gary, vous le citez, Agatha Tuschinska, il n'est pas bon d'être aimé si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je suis un peu stupéfait quand même, parce que l'amour, je me suis beaucoup intéressé, moi, non pas au complexe d'Œdipe, mais au complexe de Jocaste. C'est-à-dire la mère aimante de son fils unique en l'occurrence, pour Romain Gary, mais une mère aimante qui est toujours frustrée, toujours dans le reproche, parce que le fils s'émancipe. Et donc, pour le fils qui s'émancipe et qui ne peut jamais contenter sa mère, c'est le très beau titre du film de Gad Elmaleh. Reste un peu. Bah oui, t'es au déjeuner. T'es au déjeuner, mais ça suffit pas. Reste. Et on s'en va quand même. Donc on trouve dans l'amour réciproque, dans l'amour du couple, tout autre chose. Et on n'est pas déçu. On est plutôt presque soulagé. Un autre amour est possible. Donc, j'ai toujours été un peu agacé par cette présentation unilatérale de l'amour filial et de l'amour maternel par Romain Gary. Mais sans doute me trompais-je, Paul Odier.
Non, parce que c'est un amour exorbitant.
Exorbitant, voilà.
Exorbitant. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est de montrer ce qu'on peut faire avec quelque chose qui, non seulement vous enveloppe au point de vous étouffer, mais qui vous trace un chemin de vie déjà. Il y a dans cette mère une sorte de puissance de prédestination qui est peut-être le plus grand malheur qui puisse arriver à un être humain. Savoir qu'une vie est déjà tracée, et que, en quelque sorte, il n'y a pas à la forger soi-même, il n'y a pas à l'inventer tous les jours, il n'y a pas à même la retourner contre elle-même pour justement lui donner une autre forme. C'est quelque chose de terrible. Donc effectivement, il y a une mythification de cette puissance, mais il y a aussi, comme vous l'avez dit au début, il y a l'humour. C'est-à-dire que il n'y a pas de portrait de la mère qui ne soit pas traversé par un humour absolument exceptionnel, où justement ce réel de la mère est désamorcé en permanence par la manière dont on va à la fois le vivre et le raconter.
Oui, et en même temps, on se demande qu'est-ce qu'écrire quand il s'agit seulement d'assouvir le désir d'être un grand écrivain.
Oui, mais il n'était pas contre. Il s'est pas révolté. Ça, je ne comprends pas très bien, parce que moi, je connais la mère comme ça. J'avais une mère comme ça. Mais j'étais tout le temps contre. J'essayais de me révolter. J'essayais de faire des choses que moi, je voudrais faire. Et lui, apparemment, ben, il fait tout ce qu'elle a inventé pour lui. C'est le scénario qu'il a eu. Un grand écrivain, elle n'était plus là, d'ailleurs, pour applaudir.
Oui.
Un grand écrivain, puis diplomate, avant l'aviateur, un don Juan aussi, c'est elle qui a inventé ses rôles pour lui. Il fait tout ça, il n'est pas contre. Et puis, il aimerait que la mère sera là pour l'applaudir. Elle n'est pas là, ben, il est triste qu'elle n'est pas là.
Oui.
Il ne se sent pas finalement libre, non, pas du tout. La mère lui manque tout le temps.
Enfin, c'est quand même une représentation extraordinaire du moi, puisque le moi est en quelque sorte ventriloqué par un autre. La mère est là, elle l'envahit, elle l'investit psychiquement, et en fait, elle parle à sa place. Donc, Gary, que l'on a accusé d'être égocentré, d'être narcissique, de ne parler que de lui-même, etc., est quelqu'un qui, lorsqu'il parlait de lui, parlait surtout de sa mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, justement? Ça veut dire qu'il était lui-même décentré. Il y avait un autre en lui. Et en fait, l'hommage qu'il rend à sa mère, parce que malgré, vous avez raison, cette présence envahissante, il n'a jamais cessé de rendre hommage à sa mère. Et donc, il rend hommage à l'autre en soi, à l'autre qui est en quelque sorte le souffle de sa vocation d'écrivain. Ce n'est pas qu'il a cherché à être le plus grand auteur du monde. Ça, c'est ce que sa mère disait. Elle aurait voulu cela de lui. Mais lui-même savait qu'une ambition, elle ne vient jamais de soi. Elle vient d'une multitude de voix que l'on entend à l'intérieur de soi. Et ces voix se sont cristallisées dans le visage de sa mère, qui a été quand même quelqu'un qui l'a sauvé. Et donc, il avait un amour pour elle, qui était l'amour de cet amour salvateur.
Absolument.
Ils n'ont pas cessé de traverser l'Europe dans des conditions absolument épouvantables. Ils arrivent à Nice. C'est très difficile à Nice quand ils arrivent. Il leur faudra 10 ans pour souffler un tout petit peu. Et cette mère, en fait, elle a tout fait. Elle a tout fait pour survivre. Et en fait, il rend hommage à cette force de survie qui est faite d'aspirations, d'appels, d'auto-mythologisation. On survit par ça. On ne survit pas autrement.
Oui, et il a cette phrase que vous citez, Agatha Tuschinska: « Si j'étais sûr de retrouver ma mère dans la vallée de Josaphat ou ailleurs, alors je voudrais mourir tout de suite. »
Voilà.
C'est assez... c'est impressionnant. Alors, je voudrais maintenant qu'on s'arrête un peu à un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est le livre que j'ai préféré, sans doute que je préfère encore, de Romain Gary, avec ceux d'Émile Ajar, si j'ose dire. C'est Les Racines du Ciel. Et cette passion des éléphants. Et là, je pense à cette phrase d'Edmond Jabès: « À l'âge déclaré d'un juif, il faut toujours ajouter 5000 ans. Or, les éléphants, dès leur naissance, ils ont l'air d'avoir 5000 ans. Ils sont tout ridés de partout. » Donc, l'analogie me paraît très juste et très forte. Et aussi, vous citez, Paul Audy, l'épisode des hannetons. Et je vais le résumer brièvement. Je me servirai pour cela d'un très bel article que Béatrice Berlowitz avait écrit naguère dans le Messager européen. Romain Gary raconte que des déportés enchaînés revenant du travail, un jour du mois de mai, aperçurent soudain sur le chemin une quantité de hannetons qui étaient tombés sur le dos et qui s'efforçaient en vain de se retourner. Alors ces hommes épuisés se baissèrent l'un après l'autre et remirent les hannetons sur leurs pattes. Mais cela ne dura pas longtemps, car le sergent Gruber, lui, comprit aussitôt la signification de ce geste et mesura la gravité du défi lancé aux constructeurs du Reich millénaire. Alors il commença à frapper les hommes à coups de crosse, mais il se rendit compte que ce n'était pas cela qui permettrait de les atteindre, et il fit ce qu'il devait faire, il écrasa tous les hannetons. Je trouve cette idée absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, vous poursuivez Polodi dans votre livre. Il y a ce moment inouï où il y a ce dialogue entre l'aumônier Julien et un autre prisonnier. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fout ? lui dit ce prisonnier. Merde, dit le père Julien, laisse le bon Dieu tranquille. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Rien comme d'habitude. Peut-être qu'il est tombé sur le dos, qu'il remue les pattes, mais qu'il ne peut pas se relever. C'est extraordinaire. Donc c'est presque à nous de relever Dieu qui est tombé.
C'est-à-dire que c'est Dieu est mort à Auschwitz. Enfin, on ne peut pas lire ce texte pour moi sans cet horizon-là. Quand il parle de Dieu, il ne parle pas de Dieu, de n'importe quel Dieu. C'est le Dieu qui n'a pas pu agir quand il aurait dû agir, et donc qui est peut-être tombé sur le dos. Mais ce qui est très beau, c'est que c'est l'homme et Dieu qui sont tous les deux tombés sur le dos et qui ne peuvent pas se relever.
Oui, mais ce qui est très beau aussi, c'est justement, il a peut-être besoin qu'on le relève. Donc oui. Ça me fait penser à Eti Lesum, dans Une ville bouleversée, cette jeune néerlandaise qui a été elle-même déportée, et elle dit, c'est à moi maintenant qu'il revient d'aider Dieu. C'est-à-dire, voilà, il ne peut plus m'aider, mais c'est à moi de l'aider. Donc il y a une espèce de renversement que je trouve tout à fait extraordinaire, et une profondeur métaphysique dans l'épisode des hannetons, absolument magnifique. Alors nous allons continuer par un épisode merveilleux que vous racontez dans Le Jongleur, que l'on trouve dans La Promesse de l'Aube, l'histoire de Monsieur Piekielny. Parlez-nous de Monsieur Piekielny, Agata Tuschinska.
Ah bah oui, Monsieur Piekielny, c'était un voisin de Roman Kazev et sa mère Mina Ovchinska à Vilnius.
Oui, parce qu'il s'appelait Kazev. Hein.
Il s'appelait Kazev, oui. Et Mina Ovchinska. Alors, M. Piekielny aimait beaucoup ce petit garçon, et quand sa mère la ridiculisait en présence de l'autre voisin en disant « Vous savez pas qui est mon fils, il va être Victor Hugo, ambassadeur de France, etc. » M. Piekielny pensait « Oui, là, peut-être ce petit va être quelqu'un. » Alors, il lui demandait, il lui disait, alors, Roman, un jour, si vous étiez quelque part dans le monde, à New York, à Paris, à Varsovie, dites aux gens, dites au monde que un certain M. Piekielny vivait à 16 rue Wielkopochulanka à Vilnius. Gary, finalement, parlait de ce monsieur Piekielny, de ce juif de Vilnius. Il en parlait à la reine d'Angleterre, apparemment à général de Gaulle, en disant que bah, il y avait quelqu'un, un juif à Vilnius. Il y en avait plusieurs, il y en avait beaucoup. Ils ont été tous tués. Et monsieur Piekielny pensait que voilà,
il passerait à la postérité.
Voilà,
grâce à lui.
Grâce à ce petit garçon qui avait 10 ans, était très malheureux en entendant tous les voisins se moquer de lui parce que sa mère...
Ce vœu, Romain Gary l'a réalisé, il l'a dit à certaines personnes, puis il l'a écrit dans La promesse de l'autre, et ça me fait penser à un texte extraordinaire d'Emmanuel Lévinas dans un livre collectif « Honneur au maître » dirigé par Marguerite Léna. Donc elle l'interroge sur le maître qui l'a le plus influencé. Il parle d'un professeur de Moshe Schwab au lycée juif de Lituanie. Il leur faisait étudier Goethe et l'année se termine sur Poésie et Vérité. Et Goethe raconte son enfance à Francfort et énumère les tableaux des peintres, souvent obscurs, qui ornaient l'appartement. Et les jeunes élèves disent « Mais pourquoi des inconnus ?» Réponse de notre maître: Goethe les a importés, mitgenommen, dans son immortalité. Mitgenommen dans son immortalité.
C'est exactement
ce qu'il fait avec ce pauvre monsieur Piekielny. Et ça, c'est vraiment, c'est magnifique.
Et ça, c'est cultiver la mémoire.
Voilà.
C'est ça ce qu'il a fait ici. Et c'est ce que j'essaye de faire tout le temps.
Cette histoire qui est vraiment très importante dans La promesse de l'aube, qui vraiment signifie, comme un conte juif, si vous voulez, la naissance d'une vocation. En fait, il le raconte comme la naissance d'une vocation. Tu seras, et puis, qu'est-ce qu'il sera ? Il sera celui qui va restituer un nom à ceux qui ont disparu. Il est celui qui va restituer une présence au cœur de l'absence. Il est celui qui va donner à la littérature cette fonction. Et en fait, il ne cessera pas de le faire. Et dans cet homme qui est présenté, quand on lit le texte, je ne sais pas si vous en souvenez, il le décrit physiquement.
Le petit souris
grise.
Comme une souris grise.
Une souris grise. Alors, cette souris grise est très intéressante parce qu'elle est presque fantomatique. Son humanité, en quelque sorte, est enlevée. C'est comme si la victime des camps de la mort venait lui dire « Ton travail sera précisément d'être la mémoire. » D'être la mémoire. Pas la mémoire au sens trivial du mot, mais de faire du livre l'écrin de ce qui ne disparaît pas.
Oui, mais ce qui est aussi très important, qu'est-ce que ça veut dire « piekielne » en polonais ? Est-ce que vous le savez ?
Non.
« Piekło », c'est l'enfer. Alors ce monsieur, l'infernal.
Oui, je le savais.
Ça, c'est important.
Il vient de l'enfer.
Alors, je vais aborder maintenant une dernière question, peut-être un peu plus litigieuse. Romain Gary et les femmes. Parce que votre livre, Agata Schunzka, est un dialogue avec Romain Gary. Vous lui envoyez des lettres, ayant une assez salée, où vous instruisez le procès rétrospectif de ce séducteur qui a instrumentalisé les femmes. Ça m'a un peu étonné, parce que avec Jean Seber, il s'est montré quand même extrêmement généreux jusqu'au bout, alors qu'elle l'avait quitté, etc., mais qu'elle avait des très graves problèmes. Donc, voilà. Et que de notre côté, Paul Audy, vous dites dans votre livre que la figure importante dans l'œuvre de Romain Gary, c'est celle du couple. Alors, allons-y. Pourquoi cette sévérité?
J'écris beaucoup de lettres à Romain Gary et ma fascination pour cet homme, pour cet écrivain, venait d'admiration jusqu'à... j'avais plus de problèmes avec lui quand je lui regardais de près. Et je n'ai pas aimé ce qu'il faisait avec les femmes. Et je me suis dit, en 21e siècle, il faut en parler, il faut dire que il ne traitait pas, peut-être, sauf les deux femmes, Leslie Blanche et Jean Seber, mais il n'était pas le partenaire pour lui.
Oui, mais est-ce que le XXe siècle n'a pas un peu tendance à s'ériger en juge des donjons
Je ne pense pas que je juge. Je suis triste qu'un homme comme lui faisait ça.
Écoutez,
Paul Audy.
Moi, c'est un jeu auquel je ne participe pas et c'est un principe. Je n'ai rien à dire sur ses relations avec les femmes parce que je ne les connais pas.
Oui, cela dit, vous dites que le couple est très important.
Oui, alors,
il y a une sorte de dissociation entre l'homme et l'œuvre.
Alors, peut-être, mais est-ce qu'il y a un seul artiste où cette dissociation n'existe pas ? Donc, je ne peux pas rentrer là-dedans. En revanche, j'entends ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est que dans de nombreux livres, la figure du couple est une figure quasi messianique. Au fond, nous allons accéder au salut à travers le couple. Mais ce couple lui-même est extrêmement problématique. Parce que, d'abord, il est inscrit dans le monde. Et le monde, c'est un ensemble de déterminations qui font la guerre au couple. Le temps fait la guerre au couple, le monde fait la guerre au couple, les autres font la guerre au couple, la vie en quelque sorte fait la guerre au couple. Le couple est une figure héroïque de survie par rapport à ce fameux réel qu'il faut constamment désamorcer. Et il est allé très très loin avec l'air de femme, puisque je dirais que le réel le plus décisif, qui est la mort, il va essayer de faire survivre le couple à la mort lui-même. En fait, c'est l'objet du livre. C'est un couple qui fait l'épreuve de la mort physique et qui doit se survivre à lui-même dans une autre personne, dans une autre figure. Alors, c'est un roman absolument stupéfiant. Ça aurait pu être une catastrophe, parce que quand je le raconte comme ça, on se dit...
Et ça fait bizarre.
Ben oui, ça fait bizarre. Et il a réussi à imaginer la survie d'un couple, mais pas sur un mode glorieux, si vous voulez, sur un mode mélancolique et sur un mode presque d'échec, puisque cette aspiration à la survie du couple, finalement, échoue à la fin du roman.
Elle échoue comment ?
Ben, elle échoue parce que la femme qui était censée pouvoir faire survivre le couple que l'homme avait construit avec une autre, ben, elle le quitte. Elle ne peut pas rester. Il est trop épris d'absolu. Elle ne peut pas le supporter. Elle a vite compris qu'il vivait dans une idée avec un grand I et que cette idée, en fait, ne peut pas s'incarner. Donc, qu'est-ce que c'est que le couple ? C'est essentiellement une idée que l'on poursuit, que l'on veut faire exister, envers et contre tout.
Agata Tuschinska, vous êtes... Que pensez-vous de cette figure du couple dans l'œuvre de Romain Gary ? Vous n'êtes pas convaincue ?
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
Je ne suis pas convaincue. Mais oui, peut-être, dans l'œuvre. Romain Gary disait beaucoup, beaucoup de choses. Il jouait avec tout ce qu'il disait, pensait, encore une fois, le masque, etc. Pour moi, ces côtés de sa vie, ça ne me plaît pas.
Ça ne vous plaît pas. On ne vous réconciliera pas avec ce côté de sa vie. Un dernier mot sur la mort de Romain Gary. Il se suicide le 2 décembre 1980, il est né en 1914, il n'est donc pas très vieux. On s'est interrogé sur la raison de ses suicides. Est-ce que la mystification Émile Ajar ne l'aurait pas plongé dans la dépression ? Il dit, lui, aucun rapport avec Jean Seberg, qui était morte peu de temps avant. Mais alors, qu'est-ce que vous faites de ça, Agata Tuschinska ?
Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Je pense que c'était la piège, c'était cette mystification qui l'a finalement conduit à cet acte horrible. Il avait 66 ans. Pour un homme, ce n'est pas beaucoup, mais il se sentait vieux quand il avait 40 ans déjà. Alors, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Ce qui est extraordinaire pour moi, que quand il s'est suicidé, la France avait pleuré la mort de Romain Gary. Il ne savait pas, personne ne savait pas que c'est Émile Ajar
oui,
qui s'est suicidé aussi, parce que lui, il a écrit le livre « La vie et mort de, » d'Émile Ajar et fait le publier 6 mois après sa mort. Ouais. Alors, ça était très bien préparé. C'était pas le hasard, sa mort.
Écoutez, ce mystère est sans doute pas élucidable.
Tous les suicides sont mystérieux. Il y a une énigme de cet acte final qui est évidemment d'une gravité inouïe. Et souvent, il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire, il y a un faisceau de raisons qui viennent en quelque sorte faire corps à un instant donné. Et c'est souvent lié à cet instant. Donc, c'est vrai qu'il avait préparé sa mort. Mais il avait affranchi son fils, par exemple. Il était majeur, alors qu'il avait 17 ans. Il avait en quelque sorte mis en ordre sa vie. Il avait écrit « Vie et mort d'Émile Ajar ». Il avait préparé les choses. Mais néanmoins, les raisons profondes pour lesquelles on se tue, eh bien, on les prend avec soi dans la tombe. Il est extrêmement difficile d'entrer dans la complexité de cet acte. On ne peut que le regretter, évidemment.
En effet, je vous remercie tous les deux pour cette conversation passionnante. Agata Tuschinska, vous publiez Le Jongleur dans la belle collection La Cosmopolite chez Stock. Paul Audy, vous êtes entre autres l'auteur de « Je me suis toujours été un autre », phrase de Romain Gary lui-même, chez Christian Bourgois, et de même vous avez publié chez le même éditeur « La fin de l'impossible », donc sur Romain Gary. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Alexandre James. La semaine prochaine, l'émission rapport-titre « La peinture » de Nicolas de Staël. Mes invités seront Stéphane Lambert et Pierre Vatte. Dans un instant, « Concordance des temps » de Jean-Noël Jeannet.